éléments de la période intertestamentaire. Et je pense que ce n'est pas faux de voir ici aussi, dans cette attaque du dragon, le massacre des innocents par Hérode. Certainement, c'est sur l'arrière-plan. Donc, vous savez, ici, le peuple de Dieu sur le seuil de la Nouvelle Alliance, et puis les générations qui viennent après. Cette femme-là, elle représente non pas Marie, mais le peuple de Dieu. Et puis le dragon, c'est encore assez facile à comprendre, je crois, parce que il nous est dit un peu plus loin, au verset 9, le grand dragon, le vieux serpent, Genèse encore, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui trompe toute la terre habitée. Aucun doute de qui il s'agit, c'est bel et bien le diable, c'est Satan. D'ailleurs, on peut signaler que c'est la première apparition de ce personnage dans l'Apocalypse. Et c'est très intéressant je vous laisse réfléchir à ça, sur la différence de la manière où Jésus surgit dans l'Apocalypse. Vous l'avez dit, dès le départ, une vision massive de Jésus, dans la gloire, et la manière dont Satan se présente sur la scène, c'est beaucoup plus hésitant. On a quelques illusions ici et là. Vous vous souvenez peut-être, on parle du trône de Satan dans les sept épîtres. Et puis, dans les manifestations d'un ordre plus démoniaque, on peut déjà voir sa trace ici et là. Mais c'est pour la première fois qu'il apparaît très nettement sur la scène. Et même ce chapitre lui appartient. C'est lui le seul qui apparaît dans les trois visions que nous raconte Jean. Passons au deuxième acte. Deuxième acte, changement de lieu. Le premier acte, c'était sur la terre. Le deuxième acte va nous amener au ciel. Et je l'ai intitulé « Expulsion ». Vous allez comprendre pourquoi. Chapitre 12, verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges faisaient la guerre avec le dragon, et le dragon faisait la guerre, lui et ses anges. Mais il ne prévalut pas. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Et il fut jeté, le grand dragon, le vieux serpent, celui qu'on appelle diable et Satan, celui qui trompe toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. On entendit une voix forte dans le ciel qui dit « Maintenant sont arrivés le salut, la puissance et le règne de notre Dieu et le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères a été jeté, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Réjouissez-vous donc, cieux, et vous qui les habitez. Satan. Quand j'étais étudiant, j'avais un cours de physique théorique. Et un de nos professeurs, qui se croyait très spirituel, nous disait un jour, je m'en souviens très bien, « Vous savez, le diable, ce n'est que Dieu avec le signe inversé. » Ça, c'est une bonne blague des physiciens. Mais aujourd'hui, je sais que c'est totalement, totalement à côté de la plaque. Il ne faut pas s'y méprendre. Satan n'est pas Dieu avec un signe inversé. Satan ne joue pas dans la même division que Dieu. Et nous voyons d'ailleurs très bien dans ce texte où celui qui s'oppose à Satan, ce n'est pas Dieu. C'est le quatrième personnage de notre récit, c'est Michel. Michel, un personnage que nous ne connaissons pas très bien, on ne sait pas beaucoup de choses sur lui, mais vous allez le trouver dans le livre de Daniel, où il apparaît comme l'ange protecteur du peuple de Dieu. C'est bien de savoir que nous avons un ange comme ça qui s'occupe de nous, je trouve. Michel est un ange, et non seulement un ange, il est un chef d'ange. Il a toute une troupe sous ses ordres. C'est ce qu'on appelle traditionnellement un archange. Et ce Michel va lutter avec Satan. Et Satan va être expulsé du ciel céleste. Deuxième échec pour Satan. Premier échec, il n'a pas réussi à faire disparaître cet enfant. L'enfant est monté vers Dieu. Deuxième échec, il se trouve expulsé du ciel. Mais vous pouvez vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait au ciel, Satan ? N'est-ce pas un peu choquant que Satan puisse se tenir au lieu saint, hein, devant Dieu qui est trop pur pour voir le mal ? Comment est-ce possible que Satan puisse être présent dans ces lieux-là, dès le départ ? Le mot clé, je crois, dans la description de Satan dans cette deuxième scène, le mot clé, c'est l'accusateur. Il vous faut bien comprendre que c'est là le rôle fondamental de Satan. D'ailleurs, le nom Satan, c'est pas un nom propre, c'est une forme d'un verbe hébreu qui veut dire accuser. Satan, c'est l'accusateur par excellence. Et c'est pour cela qu'il est dans les lieux célestes. Et il faut bien comprendre cela. Satan est là, non pas par sa propre force, bien que c'est certainement un être impressionnant. Je ne dirais pas le contraire. Mais s'il se tient là, c'est qu'il exploite quelque chose de Dieu, à savoir la justice de Dieu. C'est de là que Satan prend sa force. C'est de là qu'il va tirer cette puissance pour accuser. Parce que, effectivement, face au péché, Dieu doit agir. Et cette accusation que lance Satan est là du répondant en Dieu, c'est-à-dire sa justice. Et c'est ça qui permettait à Satan de se tenir devant Dieu, parce qu'il utilise quelque chose de Dieu contre nous. Et c'est là que la bonne nouvelle arrive. C'est là que l'évangile arrive. Parce que, vous le savez, Jésus est mort à la croix pour nous, pour payer notre dette. Et du coup, l'accusation perd sa force. Parce que, face à l'accusateur, notre avocat Jésus dit, mais attendez, j'ai payé. De quoi parles-tu ? C'est réglé, la dette est payée. C'est fini, va-t'en, dégage. Et c'est là que Satan est jeté des lieux célestes. Alors, j'en profite pour vous dire une chose. J'insiste beaucoup parce que dans votre compréhension de l'Apocalypse, c'est essentiel. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais comprendre ce livre. Vous voyez ici les deuxièmes scènes. Elles s'insèrent au milieu de la première. Vous avez vu, la première scène, elle nous ramène du début, je dirais, de l'ère chrétienne, du début de la Nouvelle Alliance, la naissance du garçon, vers la fin où il pètera les nations avec un bâton de fer. La période couverte, c'est ce que la Bible appelle les derniers jours. C'est-à-dire, c'est jusqu'à présent 2000 ans, peut-être plus, j'en sais rien, mais c'est cette période-là qui est couverte. Et toute l'Apocalypse nous présente cette période-là. La deuxième scène, elle sert au milieu, c'est-à-dire, c'est quand que Satan est expulsé du ciel ? Mais c'est quand Jésus meurt à la croix. C'est-à-dire, avant qu'il ascende, hein, au milieu de la première scène. Donc, ce n'est pas quelque chose de chronologique. Et l'Apocalypse n'est pas un livre chronologique. Il y a des gens qui lisent l'Apocalypse de A à Z. Ils trouvent des événements pour dire, ça passe après. Ça... C'est totalement à côté de la plaque. Vous n'allez rien comprendre. Non, en fait... L'image que je vous ai proposée, et je voudrais répéter parce que ça me semble tellement important, l'image qui s'approche le plus de la structure de l'Apocalypse, c'est un match de foot international. Vous avez deux équipes qui s'affrontent, un match avec un grand enjeu. Et les deux équipes n'arrivent pas à se départager. C'est match nul, on va dans les prolongations. Et puis enfin, le but est marqué. Qu'est-ce qui se passe ? La foule explose, c'est la liesse. Les joueurs sont penauds pour les uns, ravis pour les autres. Et puis la télé, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se met à bégayer. Pourquoi ? Parce qu'on va nous montrer le même but encore et encore et encore et encore, mais depuis des points de vue différents. On voit d'abord de la caméra, et puis la deuxième, à gauche, à droite, d'en haut, derrière le but. On nous montre ça sous toutes les coutures. Et c'est ça l'Apocalypse. Jean, il nous montre cette même période, cette période qui intéresse les gens à qui il écrit, cette période qui sépare la première venue du Christ de son retour. Et il va la décrire sous différents aspects. Alors, il nous a décrit au chapitre 4 et 5, vue du ciel, vue du lieu, enfin du quartier général de Dieu. Vous avez les sept sceaux, là c'est décrit de l'aspect des tribulations, mais sous l'aspect de la protection du peuple de Dieu. Ensuite, vous avez les sept coupes, les sept trompettes, ça c'est le point de vue du jugement, mais vu cette fois-ci du monde en rébellion. Et cette fois-ci, de nouveau, on regarde la même période, mais en ayant un regard sur Satan. Vous savez, c'est un peu comme mon impression. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé des affiches publicitaires de près. C'est des taches de couleur. Et quand on imprime ces affiches, on met d'abord une couche jaune, que des taches jaunes. Et puis on revient là-dessus et on met une couche de magenta, de rose. Et ça change déjà d'aspect. Ensuite, vous mettez une couche bleue. Et enfin, une couche noire. Et puis là, vous avez l'image. Et l'Apocalypse, c'est ça. Vous ajoutez couche à couche à couche, chaque fois sous un angle différent. Mais c'est toujours les mêmes événements que nous voyons. Et in fine, vous avez une image complète et complexe des événements qui se passent. Mais il ne faut pas aller dans l'Apocalypse et chercher ici et là, ça c'est Napoléon, ça c'est Obama. Là, vous êtes vraiment à côté. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège. Ne faites surtout pas ça. Ce n'est pas ça l'Apocalypse. Il est temps pour aller au troisième acte que j'ai intitulé Rage. Rage. Apocalypse, chapitre 12, verset 12. Mais malheur à vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande colère, car il sait qu'il n'a que peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il poursuivit la femme qui avait accouché du mal. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle puisse voler au désert, dans son lieu où il serait nourri pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le serpent cracha de l'eau comme un fleuve de sa bouche derrière la femme, afin qu'elle soit emportée par le fleuve. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit sa bouche et avala le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de la descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc là, on établit maintenant le lien entre les deux premières visions. La première, on a vu, premier échec de Satan. La deuxième échec, il est expulsé du ciel, il vient sur la terre. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait sur la terre ? Il est enragé. Il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. C'en est bientôt fini de lui. Et il va déployer une énergie destructrice contre ceux qui restent, à savoir les autres descendants de la femme. Il va s'acharner contre le peuple de Dieu dans le temps qui lui reste. Et je crois que c'est pour ça que Jean nous raconte tout ça. Parce que ça, c'est un élément qui manquait encore dans sa présentation des faits. Il nous avait parlé des jugements de Dieu, et c'est un aspect important. Mais derrière tout ça, il y a aussi l'action de Satan, qui lui agit contre le peuple de Dieu et veut faire le plus de mal possible. Je crois qu'on n'a pas besoin d'insister beaucoup sur cet aspect-là. Ça semble assez clair. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? La première chose, je crois que notre texte nous dit, et il faut bien le comprendre, c'est que Satan, c'est fini. C'est fini. Il est mort. Il est cuit. C'en est fait de lui. Trois échecs. Un échec. Il n'a pas réussi à faire disparaître le Messie. Deuxième échec. Il s'est vu expulsé du ciel. Troisième échec. Il a engagé le combat contre le peuple de Dieu, et même là, Dieu protège son peuple. Trois échecs et bientôt la mort. C'est bientôt fini de lui. Et ça, c'est important de le comprendre. Satan est mortellement blessé. Mais, il y a un mais, il est encore dangereux. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. Il ne faut pas croire que parce que Satan, vous le savez, que c'en est fini de lui, vous ne devez pas le prendre à la légère pourtant. Parce qu'il est enragé, il sait qu'il a peu de temps, et il devient d'autant plus dangereux, je dirais. Je vais vous raconter une histoire que j'ai lue dans un livre du commandant Cousteau. Je ne sais pas si vous connaissez le monde du surf, mais un des endroits, un des spots, comme on dit, où le surf, c'est vraiment formidable, c'est l'Australie. Et il se trouve, par malchance, que justement ces endroits, ces spots merveilleux, sont infestés de requins en Australie. Et tous les ans, il se passe des choses. Et l'histoire que je vais vous raconter concerne un surfeur australien qui, il se trouve, il est tombé de sa planche et il s'est fait attaquer par un squale. Et il a réalisé le danger dans lequel il était et il a essayé de rejoindre la plage au plus vite. Vous imaginez bien, le squale derrière lui. Un peu comme dans cette photo-là. Et quelque chose l'a sauvé. C'est que, en fait, il y a une grosse vague qui est arrivée. Et cette grosse vague a balancé le bonhomme sur la plage. Alors, il était un peu assommé, vous imaginez bien. Mais quand il est revenu à lui, il était sur la terre ferme. Et très content, vous l'imaginez. Et puis, il a vu, à côté de lui, que non seulement lui avait été éjecté de l'eau, mais le requin aussi. Et il était mal en point, vous l'imaginez bien. Et c'est là où il a fait une folie. Je ne sais pas si c'est le trop d'émotion ou le stress ou que sais-je. En tout cas, cet homme est allé vers le requin et il lui a donné un coup de poing. Et le requin se retourne et lui croque la main. Il lui a sectionné la main. À cause de son orgueil ou que sais-je, à cause de sa folie, cet homme a perdu sa main alors qu'il était déjà sauvé. Cette bête était mortellement atteinte. Il suffisait d'attendre et j'en étais fini d'elle. Il n'a pas attendu et il l'a cher payé. Donc, attention, c'est un peu la même chose avec Satan. Il est mortellement blessé, mais il fait encore des dégâts. Alors, question fatidique, qu'est-ce qu'il peut encore contre nous? Qu'est-ce qu'il peut encore contre nous? Et là, je dirais, il y a trois choses à dire. Peut-être vous n'êtes pas au bénéfice du sang du Christ. Peut-être vous n'êtes pas croyant. À ce moment-là, vous avez encore tout à craindre. Parce que cet accusateur est encore actif à votre égard. Et vous n'avez pas l'avocat qui vous en sortira. Ça peut vous coûter très cher. Et comme je l'ai dit la dernière fois, même si vous croyez être chrétien, si vous êtes de ceux qui s'installent dans le péché, en témoignant par là que vous n'êtes pas réellement au Christ, tous ces risques s'appliquent à vous aussi. Votre protection n'est qu'une apparence. Mais si on prend maintenant les chrétiens, ceux qui sont effectivement au bénéfice du sang du Christ et de son action d'avocat, qu'est-ce qu'ils peuvent craindre? Que peut-il encore contre nous? Eh bien, je dirais deux choses. Premièrement, il peut vous tenter. Et il le fera. Et c'est à vous de résister. Rien ne vous oblige à tomber dans les pièges qui vous tendent. Rien. Vous n'êtes pas esclave du péché si vous êtes des chrétiens. Mais il va faire appel à quelque chose en vous qui va vous titiller. C'est à vous de résister. Si vous ne résistez pas, vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Et puis, troisième chose, et là j'avance de plus en plus vers des choses honorables, peut-être vous êtes des troupes d'élite de Dieu. Je n'en sais rien. Mais il se peut que l'un ou l'autre, ou plusieurs ici, font partie de l'élite. Et j'entends par là ceux à qui Dieu va demander plus qu'aux autres. Vous avez vu que Dieu protège son Église. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, ici et là, des gens qui vont tomber, que Satan va tuer ou priver de liberté, emmener là où on ne voudrait pas aller. Il l'a fait avec le Christ, vous le savez, il l'a fait avec ses apôtres, pour la plupart en tout cas, et il se peut que vous êtes ceux-là qu'il a choisi pour que vous aussi, dans votre chair, vous payiez quelque chose de ces souffrances qui manquent au corps du Christ, comme dit Paul. Je n'en sais rien. Aujourd'hui, nous ne vivons pas dans un contexte très violent, mais si vous écoutez ce qui nous parvient de l'Église persécutée, vous savez qu'ici et là, malheureusement, des gens meurent pour leur foi. Et peut-être vous serez appelés sur cette voie-là. Si c'est le cas, le refrain de l'Écriture, estimez-vous heureux. C'est un grand honneur que Dieu fait à ses troupes d'élite de les amener là. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, je pense que Satan peut faire quelque chose contre vous parce que Dieu l'a permis et parce que Dieu vous a appelé sur cette voie de souffrance. Je voudrais lire un dernier texte, cette fois-ci de Pierre, de l'épître de Pierre, qui écrit la chose suivante. Ami très cher, vous êtes dans le feu de la souffrance. Ne soyez pas surpris, ce n'est pas étonnant. Ce feu va montrer ce que vous valez. Si vraiment vous participez aux souffrances du Christ, soyez joyeux. Alors quand vous verrez sa gloire, vous serez également heureux et plein de joie. Si on vous insulte parce que vous êtes disciple du Christ, quel bonheur pour vous. L'Esprit de Dieu, l'Esprit glorieux est sur vous. Parmi vous, si quelqu'un souffre, il ne faut pas que cela lui arrive parce qu'il a tué, parce qu'il a volé, parce qu'il a fait le mal ou parce qu'il a semé le désordre. Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Amen.